This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Tunisie et en Corée, deux pays à la une d'ailleurs dans le monde, tout à l'heure avec Mickaël Thébault. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Rome et Londres avec Mathilde Imberti et Antoine Gignot. Culture, Alexandra Hakoun nous parlera de l'exposition « Marié trop tôt », c'est la traduction du titre de l'anglais. Exposition à la Défense à côté de Paris. 18h55, l'édito d'Olivier Poujade de France Inter sur le business du président Trump. Tout de suite, Mossoul et la Syrie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
La bataille de Mossoul qui entrerait dans sa phase ultime, la destruction de la mosquée Al-Nouri, lieu fondateur de l'État islamique et de sa mythologie, étant analysée par certains comme un signe de la débâcle finale des djihadistes. Reprendre la ville implique, selon le commandant des opérations spéciales françaises sur place, de se battre rue par rue, pour le citer, maison par maison et pièce par pièce. On va faire le point ce soir et regarder à l'échelle de la région quels seraient les scénarios de sortie de crise, notamment en Syrie. Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France à Damas, vous publiez pour l'Institut Montaigne une note sur la Syrie qui cherche précisément à imaginer, à entrevoir des solutions politiques à l'impasse actuelle. Omar Ouaman, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Correspondant de France Inter à Beyrouth, vous vous trouvez, Omar, à Kobané, en direct avec nous. Donnez-nous, Omar, quelles sont les dernières nouvelles, pardonnez-moi, les dernières nouvelles de cette bataille de Mossoul?
Ben, vous en avez parlé, Florence Paracuelos en a parlé également dans le journal. C'est effectivement cet événement gravissime qui est la destruction de l'un des plus beaux monuments d'Irak, la mosquée Al-Nouri, construite au XIIe siècle. Cette mosquée faisait la fierté des habitants de Mossoul. Elle était facilement reconnaissable de très loin. Moi, je l'ai vue quand j'étais à Mossoul Ouest et à Mossoul Est avec son minaret penché. C'est dans cette mosquée au cœur de la vieille ville dans la partie ouest de Mossoul qu'Abou Bakr Baghdadi, le chef de Daesh, était apparu publiquement pour s'autoproclamer calife de tous les musulmans. C'était le 4 juillet 2014, il y a bientôt 3 ans. La mosquée Al-Nouri n'est plus aujourd'hui qu'un champ de gravats. L'armée irakienne voulait la reconquérir à tout prix. C'était l'objectif absolu pour proclamer la victoire finale. Une victoire symbolique, car les djihadistes auraient continué à se battre jusqu'à la mort. Mais ils viennent de priver l'armée irakienne de cette image. Mmh. Une image qui aurait fait le tour du monde, à savoir celle de soldats irakiens posant fièrement là où Baghdadi avait proclamé son pseudo-califat. Le premier ministre irakien Haider El-Abadi était très amer hier soir. Il a déclaré qu'en détruisant la mosquée Al-Nouri, les djihadistes avaient officiellement proclamé leur défaite.
Est-ce qu'il y a une forte résistance de la part de l'État islamique dans cette ville, Omar?
Ah oui, les djihadistes sont au nombre de 4 à 500, tout au plus. Ils sont encerclés dans la vieille ville de Mossoul, qui est un véritable dédale de petites ruelles. C'est un labyrinthe. L'armée irakienne a lancé l'assaut il y a 3 jours et avance rue après rue, maison après maison. Chaque jour qui passe, l'étau se resserre un peu plus sur ces djihadistes, parmi lesquels, il faut le savoir, de très nombreux étrangers et français avec leurs familles. L'armée irakienne avance, mais elle est freinée par les snipers et les mines, beaucoup de mines. Et puis, par la présence de 100 000 habitants environ, qu'il faut exfiltrer un par un, car les djihadistes s'en servent de boucliers humains et n'hésitent pas, on l'a vu dernièrement, on le voit également ici à Raqqa en Syrie, et bien ces djihadistes n'hésitent pas à prendre pour cible les civils qui tentent de fuir. Donc oui, les djihadistes résistent, mais ils n'ont pas d'autre choix, car l'armée irakienne est connue pour réserver un sort particulièrement expéditif aux combattants de Daesh.
Donc la bataille peut être gagnée, Omar?
Ah oui, la bataille militaire sera gagnée, Nicolas, c'est une certitude, c'est une question de semaines, mais à quel prix? À quel prix? Mossoul est aujourd'hui une ville totalement détruite, en tout cas dans une très grande partie, notamment la partie ouest qui a été rasée par les combats et surtout par les raids aériens, des raids aériens qui ont permis de déloger les djihadistes un par un, mais gagner la paix après avoir vaincu Daesh, c'est une toute autre chose. Il faut un projet politique pour Mossoul, mais aussi pour l'ensemble des sunnites marginalisés en Irak depuis la chute du régime de Saddam Hussein il y a 14 ans. Il ne faut pas oublier qu'au début de l'arrivée de Daesh à Mossoul, par exemple, mais aussi à Fallujah ou Ramadi, eh bien, une partie non négligeable de la population a accueilli ces djihadistes avec beaucoup de bienveillance, car le régime de Bagdad, régime chiite, avait pratiqué la politique de la mise à l'écart, hein, vraiment des sunnites, accompagnée de corruption, de clientélisme. Donc il faudra dans l'avenir, un avenir très proche, beaucoup plus de décentralisation, beaucoup plus de délégation du pouvoir aux régions et garantir, ça c'est une capitale, la protection des minorités comme les chrétiens et les yézidis qui ont beaucoup souffert de ces djihadistes.
Omar Ouaman en direct de Kobané pour France Inter. Réintervenez si vous le souhaitez, bien entendu, Omar. Il faut trouver, disait notre envoyé spécial à Kobané, Michel Duclos, une perspective politique. Ce qui est valable pour Mossoul, ce qui est valable pour l'Irak, est évidemment crucial aussi pour la Syrie. Je rappelle donc que vous avez publié une note pour la Fondation, pour l'Institut Montaigne. Est-ce qu'il y a une perspective politique aujourd'hui? Est-ce qu'elle est même imaginable pour la Syrie?
Elle est, comme vous l'indiquez, elle est indispensable et donc imaginable, mais elle n'apparaît pas du tout clairement en raison d'un certain nombre de facteurs, mais principalement du fait que les trois pays dominants, c'est la Russie, les États-Unis et l'Iran, qui détiennent les clés du destin de la Syrie, et qu'on imagine mal un accord entre ces trois pays. Si les Russes voulaient se rapprocher des Américains, ils antagoniseraient l'Iran, et les Américains ne peuvent pas se rapprocher des Russes sur la Syrie en laissant la Russie dépendre, comme c'est le cas actuellement, de l'Iran pour son maintien.
Alors je vais vous poser la question autrement, en paraphrasant la note que vous publiez. Comment mettre fin à cette guerre infinie?
Alors il n'y a malheureusement pas de baguette magique. Ça ne peut être qu'une addition de mesures, d'approches différentes. Et pour moi, une des clés, c'est le rétablissement d'un rapport de force. C'est-à-dire que il n'y a pas de solution militaire, naturellement. Mais en même temps, il n'y a pas de solution qui ne serait que politique. Donc c'est très important que les Occidentaux ne ratent pas la tâche qui est devant eux, qui est de sécuriser la vallée de l'Euphrate après la défaite de Daesh, de l'État islamique. Mais en même temps, cette composante militaire n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie politique. Et la stratégie politique, elle doit passer par une solution régionale, car la Syrie ne retrouvera ses équilibres que si les interférences régionales cessent, mais inversement, les pays qui se sont lourdement investis dans la Syrie ne la quitteront pas si leurs intérêts ne sont pas préservés d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a une des clés de la solution ultime qui sera une discussion régionale.
Ah, oui, allez-y, je vous laisse finir votre phrase.
Et puis, il y a naturellement le fait que, ce qui est encore plus clé, si je puis le dire, c'est de faire disparaître à la fois le terrorisme et ce qu'on appelle Assad ou le régime d'Assad, c'est-à-dire la matrice sécuritaro-mafieuse qui a terrorisé les Syriens pendant de très longues années et qui est l'une des causes qui nourrit le terrorisme, bien sûr.
Est-ce que, on va voir ensuite les questions de calendrier, est-ce que la France a une politique syrienne?
La France a eu, pendant les dernières années, des positions sur la Syrie qui étaient bonnes, auxquelles j'adhérais. Mais elle n'avait pas de levier. Et ça a été ça un peu le drame de notre politique, c'est que nous avions sans doute raison, mais nous n'étions pas en mesure de peser sur les événements et les dynamiques dans le pays. Ça peut changer parce que le contexte a changé et manifestement le président Macron souhaite que nous retrouvions un rôle plus important, plus efficace.
Mais il y a une rupture entre François Hollande et Emmanuel Macron en matière de politique à l'égard de la Syrie, ou il y a une volonté plus forte? Enfin, quelle est la différence?
Ça, il faudrait poser la question au président de la République, mais il s'est exprimé sur le sujet dans une interview à plusieurs journaux ce matin. Je lis cette interview comme une volonté de réengagement. Je ne lis pas comme une vraie rupture, car ce qu'il dit, c'est que l'une de ses préoccupations, enfin, sa priorité, c'est le terrorisme. Une autre préoccupation, c'est la stabilité de la Syrie, et la stabilité passe par le départ d'Assad un jour ou l'autre. Alors, il indique que lui, à la différence de ses prédécesseurs, ne veut pas que le départ d'Assad ou l'éviction d'Assad soit le point de départ de tout. Au pied de la lettre, naturellement, ce n'était pas non plus l'éviction d'Assad n'était pas non plus le point de départ de François Hollande ou de ses ministres. Mais l'interprétation qu'on peut donner du président des propos du président Macron, c'est de dire le fait que Assad soit toujours là ne nous dispense pas d'agir. Et donc l'éviction d'Assad devra arriver un jour ou l'autre. C'est un des points de passage obligés d'une solution.
Vous pensez ça, Michel Duclos ?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les gens qui suivent ce dossier le savent pertinemment, si vous voulez.
Mais les puissances qui sont sur place en Syrie peuvent peut-être le penser, mais ça n'est vraiment pas une urgence pour elles.
Non, c'est-à-dire que pour l'instant, les Russes et les Iraniens effectivement ont intérêt, c'était leur objectif, et donc ils veulent le maintien d'Assad. Alors on peut parfois discuter, les Russes donnent des signaux qui s'en ont un peu assez, les Iraniens au contraire ont l'air de considérer que c'est leur seule carte, mais il doit y avoir un dialogue très approfondi avec la Russie notamment, mais aussi avec l'Iran, dans lequel nous devons répéter de manière très ferme et constante que si on maintient Assad, il n'y aura pas de paix civile, il n'y aura pas de pacification dans ce pays, et donc personne n'y gagnera. D'ailleurs, les Russes et les Iraniens croient avoir gagné, mais au fond, en tous les cas pour les Russes, à long terme, ce n'est pas tenable.
Michel Duclos, quel calendrier imaginez-vous dans une situation pareille ? Parce que la guerre, elle est infinie, effectivement. Elle n'est pas finie, elle n'est pas prête de finir. Et quand on voit la difficulté, on parlait de l'Irak tout à l'heure, tant d'années après la destitution de Saddam Hussein, quand on voit ce qu'il faut pour reconstruire un pays, et on n'y est pas encore en Irak, combien de temps faudra-t-il pour la Syrie ?
Il y a un point dans le dossier syrien qui est important, c'est que Assad a gagné contre l'opposition non-djihadiste, qu'on appelle modérée, que j'appellerais plutôt l'opposition nationale, mais il est lui-même totalement épuisé puisqu'il n'a plus d'armée. Il n'y a plus d'État en Syrie. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'État. Donc c'est un seigneur de la guerre qui s'appuie sur des milices. C'est donc quelqu'un qui est vulnérable. Et donc, nous ne devons pas relâcher l'effort vis-à-vis de nos interlocuteurs, notamment les puissances régionales, pour dire, si vous voulez vraiment la stabilité, il faut trouver un moyen, et là, évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, pour rétablir des autorités davantage acceptées par la population, les minorités qui doivent être protégées, mais aussi la majorité. On retombe sur la question qui se pose également en Irak.
Mais on peut retrouver un État, au sens où la Syrie a existé comme État avant la guerre ?
J'ai connu la Syrie avant la guerre, et c'était des administrations très dysfonctionnelles. Le parti Baas, c'est pas du tout ce qu'on imagine, une puissance colossale, etc. En Syrie, il y avait une armée, il y avait des services de renseignement, il y avait des administrations, mais tout était gangréné et dominé par un clan. Et ce clan a achevé la destruction de l'État, notamment, c'est des choses très simples, mais le régime Assad a bombardé à peu près tous les hôpitaux dans ce pays. Donc il ne faut pas croire que le maintenir, ça va permettre de maintenir la continuité du service public de la santé, par exemple. Donc c'est des choses, pardon, un peu élémentaires, mais c'est important pour vos auditeurs. Je crois personnellement que l'État en Syrie, c'est quelque chose à construire, et c'est quelque chose qui est devant nous, qui prendra beaucoup de temps, ou d'ailleurs les Européens qui ont un savoir-faire particulier dans la question de la construction de l'État devront se mobiliser, parce que c'est pas les Américains qui font ça, ni les Russes.
Mais on peut se demander si l'intégrité territoriale de la Syrie sera retrouvée après le conflit, au moment du règlement politique de la crise.
Voilà le dilemme que j'expose dans cette note, c'est que par réalisme, il faut évidemment partir des réalités actuelles, c'est-à-dire une partition de facto du pays. Mais si cette partition de facto devait se prolonger, ça entretiendrait ce que j'appelle la guerre sans fin. C'est-à-dire que chaque zone servirait de base pour des attaques sur les autres zones, et ça entretiendrait les haines confessionnelles, etc. Donc il faut retrouver, il faut partir de la division actuelle pour aller vers le rétablissement d'une certaine unité, même si bien sûr il faudra que chaque communauté s'y retrouve.
Merci Michel Duclos, ancien ambassadeur de France à Damas. À lire donc sur le site de l'Institut Montaigne cette note que vous consacrez à la guerre en Syrie et aux perspectives d'en sortir. Omar Ouaman, merci également. Omar qui était avec nous en début d'émission en direct de Kobané. Omar, correspondant de France Inter à Beyrouth évidemment. 18h33, la revue de presse des correspondants d'Inter. Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Ouaman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Rome, Mathilde Imbertie, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. La revue de presse des correspondants d'Inter passe dans quelques instants par Londres où on retrouvera Antoine Gignot. Mais tout de suite Rome. Bonjour Mathilde Imbertie.
Bonjour à tous.
La presse, Mathilde, chez vous, très critique envers la maire de Rome qui a été élue il y a un an.
Oui, Virginia Raggi, élue haut la main en juin dernier sous les couleurs des 5 étoiles. Vous vous souvenez, le mouvement anti-système ni gauche ni droite. Et selon un sondage du quotidien La Repubblica aujourd'hui, 7 Romains sur 10 considèrent qu'elle fait du mauvais travail. La Stampa dresse la liste de ses faiblesses, la difficulté à mettre sur pied son équipe. Elle n'a toujours pas de chef de cabinet. Les transports, 300 pannes par jour dans les bus de Rome. Les déchets, leur élimination est déléguée à des entreprises privées et coûte 4 fois plus cher qu'à Milan. Et puis les affaires, Virginia Raggi court vers le procès, titrait les quotidiens mardi. Le parquet a rendu ses conclusions. La maire de Rome a menti à l'autorité anticorruption dans une affaire de conflit d'intérêts.
Les 5 étoiles qui perdent du terrain partout, Mathilde, alors que, et c'est ça le problème, dimanche, les Italiens votent pour élire leur maire.
Oui, le mouvement est absent au deuxième tour dans les plus grandes villes concernées par ce scrutin. Les fondateurs des 5 étoiles, dont Beppe Grillo, le comique, cherchent une nouvelle stratégie, du coup, écrit l'Espresso, le premier hebdomadaire. Stratégie qui semble passer par un discours sur l'immigration plus musclée. Ainsi, les 5 étoiles ne voteront pas la loi sur le droit du sol en discussion. C'est un texte bricolé et invotable, selon Beppe Grillo. Pourtant, rappelait hier le quotidien Il Corriere della Sera, cette loi est très mesurée. Elle accorde la nationalité italienne aux enfants nés en Italie de parents étrangers résidant dans le pays depuis plus de 5 ans. Le quotidien de centre-droit souligne que les étrangers et du reste en Italie représentent un 12e de la population, moins qu'en Allemagne et moins qu'en France.
On termine avec le pape. Les temps sont durs, Mathilde, pour le pape François. Le réviseur des comptes du Vatican a démissionné.
En effet, démission surprise mardi de l'expert comptable Libero Milone est nommé dans le cadre de la réforme des finances voulue par François. Et d'après Il Corriere della Sera, le Vatican craint que cette démission ne soit le signe annonciateur d'un troisième scandale Vatilix. Nous verrons bien. Semaine compliquée pour le pape aussi pour une deuxième raison. Et là, on bascule sur la doctrine de l'Église. Le blog d'information 7e ciel, relayé dans la presse, publie la lettre de 4 cardinaux qui s'offusquent de l'application de l'exhortation sur la famille. Le pape, dans ce texte, laisse la porte ouverte à la communion des personnes divorcées remariées. Elle est ainsi devenue possible en Allemagne, mais pas en Pologne. Et c'est inadmissible selon ces 4 cardinaux qui, faute d'être reçus par le pape François, interpellent les médias.
Ma chère Mathilde Imbertie, merci en direct de Rome. Et bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous êtes vous en direct de Londres, au Royaume-Uni, Antoine. À la veille du premier anniversaire du vote sur le Brexit, eh bien, le moral n'est vraiment pas au beau fixe.
Pas du tout, non, avec du gris, du noir et ce dessin de Theresa May, les yeux révulsés, livides, les vêtements déchirés, représentés en zombie devant Big Ben. C'est la couverture du New Statesman cette semaine et l'hebdomadaire de gauche embauche pour l'occasion un chroniqueur du Daily Telegraph, de droite donc, qui commente « La première ministre a perdu toute autorité, personne n'en doute, ce qui peut lui arriver de mieux, c'est de partir d'elle-même avant qu'on la pousse dehors ». Et pourtant, c'était si bien parti, rappelle le Financial Times. Il y a un an, la Grande-Bretagne votait pour quitter l'Union européenne. Une nation dynamique, c'est ce que promettaient les partisans du Brexit, allait s'extraire d'un continent en train de couler. Mais comme la roue a tourné vite, l'aventure d'une Grande-Bretagne globale, comme l'appelait Theresa May, se trouve maintenant timidement portée par une première ministre sérieusement blessée. La politique pourrait rendre le Brexit impossible. Et de l'autre côté de la Manche, observe le journal, de l'autre côté de la Manche, les vents soufflent dans une toute autre direction. Ce sont désormais les capitales qui se trouvent sur le continent qui ont le monopole de l'optimisme, avec une croissance qui reprend, des populistes qui reculent. C'est Emmanuel Macron, conclut Philippe Stephens, qui a désormais ce mandat strong and stable, solide et stable, qui a été refusé à Theresa May. Le Financial Times qui scrute à la loupe ce nouveau jeune homme politique qui, malgré son inexpérience, je le cite, se comporte comme un président. La France a longtemps été une monarchie déguisée en république, mais les deux derniers occupants de l'Élysée ont déçu. François Hollande, qui n'a jamais vraiment réussi à se remettre de cette photo qu'il représentait sur son scooter en train de rendre visite à sa maîtresse, et l'effervescent Nicolas Sarkozy, écrit le Financial Times, qui a confondu le bling-bling avec la grandeur régalienne. Monsieur Macron, conclusion, a réussi à restaurer la dignité de la fonction.
Et vie économiste, mon cher Antoine, le compare même à Jésus.
Absolument, avec une photomontage explicite en couverture du magazine. Emmanuel Macron, costume bleu, chaussures qui brillent, marche littéralement sur l'eau. Les espoirs de la France, de l'Europe et des centristes de partout reposent désormais sur lui, explique l'hebdomadaire, pendant que toujours en couverture, on aperçoit les chaussures en léopard de Theresa May qui boit la tasse. En fait, ici, même les médias sont au bord du burn-out. Hier, la BBC a fait face à l'un des plus gros bugs de son histoire, avec à la télévision 11 fois le même générique d'affilée, entrecoupé d'images d'un présentateur silencieux. Rien ne va plus, constate le Guardian. Il y avait déjà les attaques, les incendies, les attentats, le gouvernement paralysé, une première ministre affaiblie, un négociateur du Brexit obligé de faire des concessions et d'accepter qu'on négocie d'abord la facture de sortie de l'Union européenne avant de parler des futurs traités. Il y avait déjà ces nuages noirs. En plus, il y a désormais une vague de canicule, des températures qui battent des records jamais atteints depuis 175 ans. Pour la première fois, le dress code du Royal Ascot a été assoupli pour la première fois dans l'hippodrome. Donc, depuis 1711, en présence de la famille royale, les hommes ont cette année l'autorisation de défaire leur veste et de poser leur chapeau. Vous l'imaginez bien, rien ne va plus.
On termine, Antoine, avec un petit point d'optimisme quand même. Les couples britanniques sont de plus en plus heureux.
Et du moins, ils restent ensemble plus longtemps. Vous savez, il y a ce fameux cap des 7 ans dont on parle toujours. C'est ce qu'on appelle ici le 7 years itch. Quand ça vous démange, quand ça vous gratte au bout de 7 ans, eh bien, ce serait plutôt en réalité un cap des 11 ans désormais. Presque 12, constate le Times. Les mariages depuis un demi-siècle n'avaient jamais duré ici aussi longtemps. 11,9 ans en moyenne. Les divorces ont baissé de 10% cette année par rapport à l'an dernier. Et dans le même temps, la population augmente à une vitesse qu'on n'avait pas observée depuis 70 ans, grâce à l'immigration, mais pas seulement. Alors face à la morosité ambiante, il y aura donc une relève, une nouvelle génération, mais il va falloir attendre entre 18 et 20 ans.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. Elvis Presley, puis Michael Thébault.
Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone.
Return to sender, Elvis Presley, 18h42.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et bonsoir, Michael Thébault.
Et bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction la Tunisie, où une révolte un peu particulière se déroule depuis près d'un mois maintenant.
Et ici, en Tunisie, dans le seul pays rescapé des printemps arabes, réputé aussi, on le sait, pour être l'un des plus libres au niveau des mœurs, eh bien, les non-jeûneurs ont décidé de se mobiliser au beau milieu du mois de Ramadan, car même même si rien n'interdit explicitement dans la loi de manger ou de boire avant le coucher du soleil, eh bien ces Tunisiens dénoncent les atteintes récurrentes à leur liberté. Il y a quelques jours, ils ont donc de nouveau manifesté pour revendiquer leur droit de ne pas pratiquer le jeûne du mois saint des musulmans. Bonsoir Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors Justine, vous étiez précisément à ce rassemblement. C'est la première fois dans l'histoire récente que des Tunisiens manifestent pour ce motif-là, qui plus est, évidemment, pendant le mois de Ramadan.
Oui Mickaël, ce dimanche-là, ils étaient un peu moins d'une centaine. Sous un soleil écrasant, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont demandé le respect de la liberté de conscience. On aperçoit des bouteilles d'eau et quelques cigarettes. Donia Amri, cheveux courts, la trentaine, fait partie des manifestants.
Qu'on respecte les libertés individuelles, que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut. On n'empêche personne de faire Ramadan, on n'empêche personne de faire la prière. Simplement, les personnes qui ne sont pas convaincues ne sont pas obligées de s'y plier. Je ne vois pas en quoi le fait de manger ou de boire dans la rue est une atteinte au sacré, aux croyances d'une autre personne. Tout ce qu'on demande, c'est simplement que chacun puisse vivre sa vie tranquillement, tant qu'on respecte les autres, qu'on nous respecte nous aussi.
Alors Justine, vous l'avez dit, la manifestation n'a pas été franchement massive. Comment l'expliquez-vous ?
Eh bien Mickaël, j'ai posé la question à l'un des organisateurs. Pour Abdelkarim Ben Abdallah, il est vrai que beaucoup de gens, y compris parmi ceux qui ne suivent pas le jeûne de Ramadan, ne se sont tout simplement pas mobilisés par manque d'intérêt ou de motivation. Mais ce n'est pas la seule raison.
Je vous dis que la majorité des jeunes ne peuvent pas venir parce qu'ils ont peur de leurs parents. Et il y a d'autres gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne veulent pas que les gens les voient en train de manifester pour un truc pour eux anti-islam. Ce qui n'est pas le cas.
Et ce n'est pas Kamel Jalouli qui va le démentir. Cheveux argentés et immense drapeau tunisien enroulé autour de lui, le vieil homme tenait absolument à être présent à ce rassemblement.
Je suis jeûneur, je jeûne. Je suis venu soutenir les gens qui ne jeûnent pas, quel que soit leur motif, pour défendre les droits et les libertés. Il y a un article dans la Constitution qui nous permet d'avoir ce privilège.
Justine, concrètement, que se passe-t-il pour ceux qui ne jeûnent pas pendant le mois de Ramadan ?
Heureusement, Mickaël, bien souvent, il ne se passe rien. D'ailleurs, la loi tunisienne n'interdit pas explicitement de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. La nouvelle Constitution, adoptée en 2014, garantit même la liberté de conscience. Mais celle-ci n'est pas respectée, comme l'explique Lilia Rebaille, directrice Tunisie de l'association Euromed Droit.
Pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup plus d'atteintes aux libertés, donc à la liberté de conscience notamment. Les forces de l'ordre continuent à fermer des établissements comme les cafés, les restaurants et arrêtent et, disons, harcèlent les citoyennes et les citoyens qui mangent dans la rue ou qui, donc ce qui est considéré comme un dépassement par rapport, disons, à une morale.
Rien que ce mois-ci, 5 personnes ont déjà été condamnées pour avoir mangé ou fumé en public avant le coucher du soleil. Des condamnations prononcées en vertu de vieux articles du code pénal pour outrage à la pudeur ou encore atteinte aux bonnes mœurs. Les 5 hommes ont fait appel. Les associations de défense des droits de l'homme, elles, appellent l'État tunisien à abroger au plus vite ces articles et à faire respecter effectivement la liberté de conscience.
Justine Fontaine, correspondante de France Inter à Tunis. Merci.
Et aux antipodes du jeûne, Mickaël, direction maintenant la Corée du Sud pour évoquer la folie des boulangeries.
Ah oui, c'est vraiment le terme, vous allez comprendre. Un incroyable engouement pour le pain, Nicolas, et le pain dans tous ses états. Les consommateurs sud-coréens se ruent depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans de grandes chaînes 100% coréennes, mais au nom 100% français, telles que Paris Baguette, ou tous les jours, en français dans le texte. Et phénomène nouveau, les petites boulangeries indépendantes commencent elles aussi à se multiplier un peu partout dans le pays, et avec au fournil eh bien de jeunes boulangers, pour la plupart formés ici en France. On compte désormais près de 17 000 boulangeries sur un territoire 5 fois plus petit que le nôtre. Bonjour Frédéric Ojardias, correspondant de France Inter et des RFI à Séoul.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Alors on peut vraiment parler de ruée coréenne sur le pain.
Oui, on voit aujourd'hui ouvrir un nombre croissant de boulangeries, souvent d'excellente qualité, avec des jeunes chefs qui ont étudié en France. Il faut d'ailleurs préciser que les Coréens utilisent le mot français de pain, mais en Corée, ce terme inclut aussi les pâtisseries et les viennoiseries. Et dans mon petit quartier, ici à Séoul, pas moins d'une dizaine de ces boulangeries a ouvert en 2 ans. L'une d'entre elles s'appelle Copain. Les sœurs Aram et Sodam sont 2 clientes très enthousiastes.
J'ai acheté un pain doré, un pretzel au beurre et un pain aux fraises. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup le pain parce que c'est simple à manger et qu'on se sent vite rassasié. Aujourd'hui, les Coréens sont de plus en plus occupés à cause de leur travail. Et le pain, c'est très pratique.
J'ai trouvé cet endroit grâce à Internet. J'ai lu que c'était très bon. Ma sœur adore le pain et c'est pourquoi nous avons décidé de faire une tournée des boulangeries. Les Coréens voient apparaître différents types de pain qu'ils ne connaissent pas et ils sont très très curieux.
Mais c'est quoi, Frédéric, au juste, ces tournées des boulangeries ?
Eh bien, c'est un nouveau concept à la mode ici. Les Coréens appellent cela pain tour. C'est un mélange de français et d'anglais. L'idée, c'est de se rendre dans un quartier ou dans une ville de province et de faire le tour de ces meilleures boulangeries pour en goûter les spécialités. Vous pouvez trouver des suggestions d'itinéraires, selfies à l'appui, sur les blogs et les réseaux sociaux. Du coup, les chefs coréens rivalisent de créativité pour attirer les clients et surtout pour adapter leurs produits aux goûts locaux. Par exemple, la spécialité phare de la boulangerie Copain, c'est un croissant au saumon avec de la sauce teriyaki, de la sauce japonaise. On trouve aussi une baguette fourrée à la pâte de haricots rouges. Le patron Kim Woo-young, 32 ans, a étudié en France pendant 3 ans.
Moi, j'aime bien la création. J'aime bien trouver les nouvelles recettes. Moi, tu trouves des informations sur Internet ou Instagram ou Facebook. Tu réfléchis beaucoup et après, tu crées une nouvelle recette. Parce que les clients coréens aiment beaucoup la nouveauté. Le pain ici, c'est un peu différent que la France. Les Coréens pensent que le pain, c'est comme un gâteau, tu crois. C'est un peu chic, pas traditionnel.
Voilà, un peu chic, pas traditionnel, mais en tout cas en plein essor, à tel point qu'aujourd'hui, les grandes chaînes coréennes de boulangerie cherchent à leur tour à exporter leurs propres produits partout dans le monde.
Tout à fait. Le meilleur exemple, c'est Paris Baguette, omniprésent en Corée avec 3700 points de vente. Ce géant de l'agroalimentaire a d'énormes ambitions internationales. Il a déjà ouvert 260 magasins en Chine, aux États-Unis, au Vietnam et même à Paris. Paris Baguette est si déterminé à exporter la boulangerie française que l'entreprise cherche aujourd'hui à gommer sa nationalité coréenne. En Corée même, pour empêcher ces grands groupes de monopoliser le marché intérieur, le gouvernement a introduit des régulations qui protègent les petits artisans avec succès. Le pâtissier français Joël Vial a ouvert sa première boulangerie en Corée, Bread Show, il y a 18 ans. Il possède aujourd'hui 20 points de vente à travers tout le pays et il se félicite de cette multiplication des boulangeries indépendantes.
Moi, je trouve ça une très bonne chose que des jeunes se lancent dans la boulangerie. Ça permet de diversifier les boulangeries. Donc, c'est bien pour les clients aussi puisqu'ils auront plus de choix. Et puis, plus il y a de gens qui créent des nouveaux pains, plus ça enrichit le métier, donc mieux c'est.
Ben voilà, la baguette sud-coréenne à l'assaut du globe. Merci Frédéric Jardias, correspondant d'Intérêt des RFI à Séoul. Ça vous tente, Nicolas, une baguette fourrée, la pâte de haricots rouges?
Je veux bien essayer.
Je vous ramène ça lundi.
À lundi, Mickaël.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
18h51, on change radicalement de registre. Toutes les 2 secondes, dans plus de 50 pays à travers le monde, une jeune fille est mariée de force à un homme plus âgé. Alexandra Akoun, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Cette statistique terrifiante est au cœur de l'exposition de la photographe américaine Stéphanie Sinclair, Too Young to Wed, mariée trop jeune. Expo à voir en ce moment à l'Arche du photojournalisme, de la Grande Arche de la Défense.
175 clichés à l'esthétique troublante. Sur un thème qui vous remue les tripes, Stéphanie Sinclair travaille sur cette problématique depuis près de 15 ans. En 2003, le magazine National Geographic lui commande un reportage sur ses mariages. Stéphanie Sinclair carrière s'envole alors pour l'Afghanistan.
Quand j'ai réalisé que des filles pouvaient s'immoler par le feu à cause d'une vie pleine de traumatismes, parce que si jeunes quand on les a mariées et des abus qui ont suivi, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. Et plus j'avançais, plus je réalisais que cette problématique, on la retrouvait dans plein de pays, et pas juste en Afghanistan. En 2003, il n'y avait pas de photos sur les mariages des enfants. Donc je me suis dit que je pouvais contribuer à exposer ce sujet, l'expliquer, pour faire comprendre au monde ce qui se passait.
Dans l'exposition, Stéphanie Sinclair nous emmène aussi au Népal, en Éthiopie, au Yémen, en Inde. Ce qui frappe à chaque fois, c'est le regard de ces fillettes tristes et dures. Une partie de l'expo est aussi consacrée aux États-Unis. Oui, les mariages précoces ne sont pas l'apanage des pays les moins développés. Dans le Massachusetts et le New Hampshire, par exemple, on peut être marié à partir de 12 ans.
Des mariages, Alexandre, qui se font bien souvent pour des raisons économiques, culturelles, religieuses, mais derrière se cache surtout un pouvoir glaçant.
L'un des très grands formats de cette exposition, par exemple, plus de 4 mètres sur 3, nous présente Tarani, 11 ans. Elle vit au Yémen et pose aux côtés de son mari. Elle ne lui arrive même pas à l'épaule. La légende nous dit qu'elle avait 6 ans lorsqu'on l'a mariée et qu'au début, à chaque fois qu'elle apercevait son mari, elle se cachait. Un peu plus loin, on est au Sierra Leone. Une jeune fille avec un turban dont les cheveux se tient debout auprès d'un homme qui lui est assis. Elle a 17 ans, il en a 48. Sur ses genoux, à lui, un bébé, leur bébé. Le reste, c'est Stéphanie Sinclair qui le raconte.
Cette photo a été prise l'été dernier. La fille s'appelle Baby. Elle a été mariée en pleine crise Ebola. C'est très important de faire le maximum de prévention sur les mariages d'enfants en période de crise, parce que c'est là que les filles sont le plus vulnérables. Parce que les gens se battent pour survivre et parfois ils pensent qu'en mariant les filles, ils les protègent du viol ou d'autres choses. Et donc elle, on l'a mariée à cet homme, Claude, et je l'ai rencontrée à l'hôpital où elle allait avoir une césarienne parce qu'elle était trop petite pour accoucher normalement sans risque. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont mariées, les filles perdent très souvent leur voix dans la famille. Par exemple, là, je voulais lui demander combien d'enfants elle voulait avoir. Lui a dit non, je vais répondre. Elle n'a pas à décider du nombre d'enfants qu'elle aura.
Marquée par ses destins, Stéphanie Sinclair a monté une ONG en 2012 pour défendre les droits des petites filles, distribuer des bourses d'études. Au Kenya, elle a monté des ateliers photos pour que les jeunes filles puissent exprimer leur traumatisme, s'approprier leur propre histoire. Tous les détails sont sur le site tooyoungtowed.org. Quant à l'exposition de Stéphanie Sinclair à l'Arche du photojournalisme, elle est à découvrir jusqu'au 24 septembre.
Alexandra Akoun, merci.
France Inter, le 18-20. Un jour dans
l'édito d'Olivier Poujad du service étranger d'Inter. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Nicolas.
Donald Trump, sa politique et ses affaires, direction les États-Unis pour une plongée dans la capitale Beltway.
Oui, la Beltway, vous savez Nicolas, c'est cette ceinture périphérique qui encercle Washington, la capitale des États-Unis, mais c'est aussi et depuis toujours l'expression qui désigne le cœur du pouvoir, sa partie la plus sombre notamment, le lieu où les fonctionnaires d'État, les entrepreneurs, les lobbyistes agissent en fonction de leurs propres intérêts et très souvent en opposition à celui du reste de la population. Lobbyistes qui peuvent d'ailleurs désormais se rendre à la Maison-Blanche tout en toute discrétion puisque le registre des entrées n'est plus rendu public depuis l'arrivée de Donald Trump en janvier. C'est donc à l'intérieur de cette Beltway que se trouve, à quelques centaines de mètres de distance, la Maison-Blanche et l'hôtel Trump International, l'un des fleurons de la chaîne hôtelière appartement à l'homme d'affaires devenu président
des États-Unis. Oui, mais oui, d'où des conflits d'intérêts peut-être.
Une limite qui pourrait avoir franchi Donald Trump, car il est aujourd'hui soupçonné d'avoir violé la clause des émoluments étrangers qui figure dans la Constitution et interdite au président de recevoir de l'argent d'entreprises et de gouvernements étrangers.
Et du coup, Trump est visé par 3 plaintes.
La dernière en date a été déposée la semaine dernière par 196 élus démocrates qui estiment que les diplomates étrangers de passage à Washington privilégient désormais cet hôtel au détriment des autres, les Saoudiens et les Turcs qui auraient notamment leurs habitudes, ce qui pose un problème de concurrence déloyale pour les hôtels voisins. Argument développé par les procureurs généraux du Maryland et de l'État de Washington, ils ont eux aussi déposé plainte, et expliquent que dans le périmètre du Trump International Hotel, l'État possède 2 terrains sur lesquels se trouvent 2 hôtels du même standing. 383 millions de dollars ont été investis, de l'argent public. Mais comme c'est à l'hôtel Trump qu'il faut être vu, la concurrence devient subitement moins fréquente. comptable et dans ce cas précis, le contribuable américain se retrouve lésé. D'après une ONG américaine anticorruption qui a, elle, déposé sa plainte dès le mois de janvier, depuis l'élection, l'hôtel aurait carrément engagé un directeur des ventes diplomatiques. Le Washington Post affirme que le président est venu plus d'une fois y accueillir les délégations et l'ensemble de l'ambassade du Koweït aurait même déplacé dans cet établissement l'organisation d'un événement initialement prévu dans un des hôtels Four Seasons.
Et voilà une chaîne qui est directement concurrente des hôtels Trump, Olivier.
Tout comme la chaîne Starwood, Nicolas, à laquelle appartient Sheraton et qui surfait jusqu'à vendredi dernier sur un marché touristique cubain en hausse de 145% sur un an, marché auquel n'avait pas accès l'empire hôtelier de Donald Trump. Le président a donc volé au secours de l'entreprise familiale en annulant, je cite, l'accord totalement inéquitable signé avec Cuba par la dernière administration.
Et une dernière question, ces plaintes peuvent aboutir désormais ?
Alors évidemment, c'est ce que souhaitent les plaignants, car en cas de mise en examen, Donald Trump pourrait être contraint à fournir sa déclaration d'impôt, ce qu'il refuse catégoriquement depuis son élection, mais un document fiscal rendu public la semaine dernière montre par exemple que ses revenus provenant de sa résidence, la célèbre résidence de Mar-a-Lago en Floride, où l'on mélange allègrement affaires publiques et affaires privées, ses revenus ont augmenté de 7 millions de dollars sur un an. Cela nous donne malgré tout une petite indication de l'impact que pourrait avoir la politique de Trump sur le business de Donald.
Olivier Poujade, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur la canicule du ce qu'il fait chaud, la pire journée de la semaine c'était aujourd'hui, les choses devraient s'améliorer mais les climatologues promettent un été bouillant et la multiplication des épisodes de ce genre, les canicules seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, on en parle au téléphone sonne, intervenez au 01 45 24 7000.